Donc, c'est dans Jean 1 que nous nous dirigeons ensemble pour le message de la parole ce matin. Jean 1 qu'on a lu en entièreté et maintenant on va seulement lire les versets 1 à 5. Mais on va en lire à travers le message, on va en lire d'autres dans Jean 1 et un peu partout dans Jean puis dans la parole. Donc, on peut lire dans Jean 1, au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Seigneur, merci, on peut s'arrêter comme ça avec la grande ouverture de cet évangile de Jean qui proclame ta divinité, que tu es la parole éternelle, le Verbe incarné. Et Seigneur, on veut considérer cette merveilleuse doctrine de ton incarnation. Aujourd'hui, Seigneur, et on veut aussi, Seigneur, que ça puisse résonner dans nos cœurs, qu'à travers ce temps des fêtes, on puisse débordé de Jésus. Toi qui es venu à nous, Seigneur, tu nous envoies aussi pour qu'on vienne à des gens qui sont brisés, qui sont dans la tristesse, des fois même des frères et sœurs, des fois des gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs pour accomplir tes desseins bienveillants, tes desseins de restauration, de rédemption envers nous, ton peuple, et à travers nous aussi. Pour ce monde, Seigneur, pour lequel tu es venu il y a 2000 ans, mais qui a encore tellement besoin de toi, Seigneur. Merci qu'on peut s'arrêter comme ça. Et on s'en remet à toi, au nom de Jésus. Amen. La révélation de l'incarnation. On va regarder ça ensemble, c'est le titre du message. Et d'abord, je veux qu'on regarde là, d'emblée la grandeur et la merveille du fait que Dieu s'est révélé à nous en s'incarnant, en venant à nous comme ça. Le verset 14 nous dit, « Et la parole, on vient de lire la parole là, dans les cinq premiers versets, mais cette même parole a été faite chair, ça nous parle d'incarnation, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Plein de choses qui remontent dans mon cœur parce que je suis en train d'étudier pas mal l'Évangile de Jean, puis là, dans le chapitre 1, tout ça, je suis en train de préparer ça pour les messages qu'on va avoir au début janvier. Mais j'aimerais juste aujourd'hui y aller simplement avec quelques pensées que je vais vous partager sur cette incarnation. D'abord, pensez-y. Le Dieu 3x5. Le Dieu qui habite l'éternité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe à son sujet? Ça nous dit dans Ésaïe 57, 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Ce Dieu qui se fait connaître à nous, qui vient à nous, parce que la fin de ce verset-là dans Ésaïe, ça dit, « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrit. » Ce Dieu 3x5 qui est élevé vient à nous, proche, nous rencontrer. On a aussi Hébreux chapitre 1, l'ouverture d'Hébreux, et on est dans l'ouverture de Jean ici. Écoutez celle d'Hébreux. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, » ça c'est l'Ancien Testament, « Dieu dans ses derniers temps, » ça c'est le Nouveau Testament, « nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses, par lui, il a créé l'univers, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui se révèle par le Fils. Ce n'est pas juste avec des prophètes qui parlaient de la part, c'est Dieu lui-même qui parle de sa propre part dans le Fils, dans Jésus. Et ça, mes amis, c'est le comble de l'amour, lui qui vient à nous, plein de grâce et de vérité. Nous qui avons besoin de la révélation de Dieu, on a besoin de ça personnellement. C'est pour ça que Dieu, le Saint-Esprit, est celui qui convainc, de péché, de justice et de jugement. Il convainc un cœur à la fois. On a besoin aussi d'une révélation complète, pas juste partielle. L'Ancien Testament, ça nous amenait beaucoup de choses précieuses sur Dieu, mais en Jésus, on a cette révélation complète. Jésus qui nous dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Mais aussi, on a besoin non seulement d'une relation personnelle, une relation complète, mais une relation transformante. Et ça, on a ça dans 2 Corinthiens, où est-ce qu'on peut lire au chapitre 3, verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est tout ça l'incarnation, c'est Dieu qui vient à nous et qui laisse rien de pareil. Quand Dieu se présente dans la vie de quelqu'un, quand Dieu envahit la vie de quelqu'un, il n'y a plus rien de pareil. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, cette révélation qu'on a par l'incarnation, c'est la révélation de ce qu'on est, des êtres dans le besoin. Pourquoi Dieu est venu à nous? Parce qu'on avait besoin qu'il vienne à nous. On était perdus, on était complètement séparés de Dieu, on était des êtres totalement dans le besoin, mais aussi ça révèle qui Dieu est, un être de provision, celui qui est le comble de tous nos besoins. Et donc, c'est là qu'on voit la grâce extraordinaire de Dieu, qu'on ne devrait jamais prendre pour acquis quand on parle de la grâce de Dieu. Cette grâce de se révéler à nous, parce que Dieu s'est révélé, oui, dans la création, mais savez-vous, c'est pas assez complet. Parce qu'en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on fait avec la création? On déforme. Puis au lieu de donner la gloire au Créateur, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 1? Ben, on donne la gloire à la créature, puis on adore la créature au lieu du Créateur. Mais Dieu, par sa parole, la Bible nous donne l'ultime révélation, l'ultime témoignage, c'est-à-dire Jésus, la parole incarnée. Donc, on a la parole écrite entre nos mains, mais Jésus est venu, puis il est la parole, il est venu habiter. Donc, c'est la parole qui s'est accomplie live. On voit ça sur Internet, là, des fois on peut écouter un podcast live. Mais Jésus est venu live. Quand il était là, il était vraiment, il a touché les gens, il les a embrassés, il a été vers eux, il les a écoutés, il leur a parlé. Jésus est venu comme ça. Donc, c'est la complète révélation. Il est venu à nous comme ça pour révéler qui Dieu est. Et c'est complet. Une fois qu'on a Jésus, on ne peut pas avoir plus de Dieu. Ici sur terre, on sait qu'évidemment, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement infini. Même l'éternité ne pourra pas épuiser la grandeur de tout ce qu'on peut comprendre de Dieu. Mais ici, par le Fils qui est venu à nous, on peut connaître tout ce qu'on a besoin de connaître sur Dieu. Puis savez-vous quoi? Si vous êtes un enfant de Dieu, comme moi, n'est-ce pas? On découvre Dieu tout le temps plus. C'est inépuisable, même en tant qu'enfant de Dieu. On a l'Esprit de Dieu, on a la parole de Dieu. Puis c'est comme, hey, wow, Dieu! C'est pas comme, oh, j'ai appris quelque chose de nouveau dans le sens de, ah, Dieu est amour. Alors, ça, je fais longtemps que je sais ça, mais comment ça résonne dans nos cœurs? Oh, Dieu, c'est un réconfort pour mon cœur, t'es amour. Il y a une proximité, il y a une réalité à cette vérité qu'on connaît, mais qui, là, vient se loger dans nos cœurs d'une façon fraîche, personnelle et puissante. C'est ça, l'incarnation. C'est Jésus qui est venu et qui continue de venir à nous. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, Dieu ne pourrait pas être plus proche que ça. Il vit en nous. Après ça, tu ne peux pas avoir plus proche que Dieu qui vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus nous a envoyé son esprit qui crie en nous, « Abba, Père ». Et donc, c'était mon intro, la provision de Dieu qui nous donne Jésus, ça répond, c'est la réponse au besoin le plus fondamental et absolu de toute la race humaine, de toute la terre, mais aussi de tous les enfants de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais décliner ensemble avec 4 catégories de provisions que nous donne la révélation de l'incarnation. Parce que Dieu nous donne quelque chose en se révélant à nous. La première chose qu'il nous donne, la première provision, la révélation de l'incarnation nous donne l'identité de Dieu. Ça nous dit qui Dieu est. Au commencement était la parole. Et là, ça nous parle, c'est qui sur la parole? C'est Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'incarnation nous révèle l'identité de Dieu. Et là, on pourrait voir toutes sortes de passages, mais je veux juste mettre en comparaison ce qu'on a ici, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, versus l'Ancienne. Comment Dieu s'est révélé dans l'Ancienne Alliance? Bien, c'est une révélation très précieuse et extraordinaire. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Donc, c'est quoi ton nom? « Je suis celui qui suis. » Si vous parlez hébreu, c'est quatre lettres. Je ne sais pas comment les prononcer, là. C'est YHWH. On dit Yahweh, Yahvé, là, vous comprenez? Le tétragramme. Donc, le nom de Dieu, c'est « Je suis celui qui suis ». Il ajoute, « Si ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ça, c'est la révélation qu'il y avait, mais savez-vous quoi? Elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, mais elle n'est pas complète et suffisante dans le sens où est-ce que il n'y a pas tout le bagage de l'incarnation qui va avec. Parce que quand Dieu dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire qu'il est la réponse à tous nos besoins. « Je suis ta paix dans la détresse. Je suis ta joie dans... » OK? « Je suis... » Tu sais, remplissez, espace à remplir. « Je suis le besoin que tu as. » Tu sais, quand il dit « Je suis l'éternel, votre bannière. » C'est moi qui combat pour vous. « Je suis Jéhovah Jireh. » Je suis celui qui pourvoit. OK? C'est extraordinaire. C'est ça. C'est le nom de Dieu. Mais savez-vous, Jésus aussi, c'est un « je suis ». Jésus, c'est l'éternel sauve. Je suis celui qui sauve. Donc, là, il y a une différence parce que un besoin, c'est légitime. Mais sauver, dans le contexte, sauver du péché, ça, c'est coupable. Oh là, c'est pas pareil. Et là, il dit, ben Dieu, j'ai besoin de toi, OK? On peut... Mais là, quand on dit « je suis celui qui sauve », c'est celui qui nous sauve de notre culpabilité, de notre rébellion, de ce qui était un problème entre nous et Dieu. Fait que là, on est à un autre niveau, là. OK? La révélation du nom de Jésus, ça nous parle de notre culpabilité. Ou pour l'amener autrement, le nom « Je suis », c'est l'introduction à la personne de Dieu. Le nom « Jésus », c'est la conclusion. Ou si vous voulez, le commencement, l'introduction à ce que Dieu nous révèle par le nom « Je suis », ben on en voit la plénitude dans le nom « Jésus ». Parce que Jésus, c'est celui qui sauve. Jésus, c'est le dernier Adam, celui qui vient renverser toute la décrépitude de la chute, le dernier Adam. Jésus, c'est le deuxième homme par son salut, par le fait qu'il sauve, il recommence tout à zéro. Voici, je fais toute chose nouvelle. Il est le deuxième homme. La résurrection, il est le premier d'entre les morts, une race nouvelle rachetée. OK? C'est ça, Jésus. Ça l'amène les choses à leur plénitude, au fait que c'est complet. Ce qui a été initié dans le renversement des choses, dans le renouvellement des choses avec le fait que Dieu se révèle comme le « je suis », a été complété, a été achevé par « je suis celui qui sauve », par Jésus, Yehoshua. OK? Et c'est pour ça que Jésus dit avec ses disciples, il parlait à Philippe, « Philippe, écoute bien, ça veut dire, c'est Philippe, il faut que tu écoutes ça, ça veut dire, c'est pour toi spécialement. » T'avais juste à t'appeler autrement. Ceci s'applique seulement à Philippe ce matin. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, « Montre-nous le Père? » Et on voit aussi dans 1 Jean au chapitre 1, au verset 2, « La vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, hein, Jésus, la parole, la vie, et qui a été manifestée. » Donc, tout ce qu'on peut connaître sur Dieu nous est révélé pleinement en Jésus. L'identité de Dieu atteint tout ce qu'on peut connaître et complète par la personne de Jésus-Christ. Parce que, pensez-y, quand on pense au Père, à Dieu le Père, ça laisse certainement certaines questions en suspens. On s'entend que Dieu est trinitaire, il y a un seul Dieu, Dieu est partout, Ancien, Nouveau Testament, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien et un Dieu de Nouveau. Mais l'Ancien Testament révèle premièrement le Père. OK, beaucoup. Je veux dire, il y a les autres personnes de la Trinité, mais il y a beaucoup de la révélation. Les Évangiles, Jésus, OK, nous révèle beaucoup la personne du Fils, toute la rédemption. Mais les Actes nous révèlent beaucoup la personne du Saint-Esprit, celui qui fait connaître Jésus. OK, donc, chaque personne de la Trinité ont leur temps comme ça dans la révélation de Dieu. Mais on peut se demander, quand on pense au Père, mais comment savoir c'est quoi exactement le plan rédempteur, le plan éternel de Dieu pour les hommes. Tu sais, il y avait des trous là, dans cette... Ouais, OK, il vient quand le Messie? C'est pour ça quand il est arrivé. Es-tu le Messie? C'est-tu toi? Es-tu le prophète? Puis, il y avait beaucoup de questions en suspens. Puis même, c'est ça, pour connaître ce Dieu trinitaire pleinement, c'était pas complet avec l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'on a lu? Je le relis. La parole a été faite chair, verset 14, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Puis regardez aussi le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Père. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous comment Jésus, son incarnation, nous révèle Dieu d'une façon qui n'était pas connue avant. Donc l'identité de Dieu nous est pourvu, nous est donné comme ça par le Fils. Le Fils est celui qui fait connaître le Père par le ministère du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi joue son rôle là-dedans. Quand le Consolateur sera venu, c'est Jésus qui a dit ça, il vous enverra de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Donc Jésus, on peut dire, est le révélateur de l'identité de Dieu. Et je dirais, si vous êtes un enfant de Dieu, il nous révèle aussi l'identité que nous avons en lui. Parce que quand on regarde dans le Nouveau Testament, tout ce qui est en lui, ce que Dieu a fait de nous, c'est révélé là aussi dans la personne et l'œuvre de Jésus. Donc, notre identité, l'identité de Dieu révélée par le Fils. Deuxième chose qui nous est pourvue, qui nous est donnée par la révélation de l'incarnation, l'œuvre de Dieu nous est révélée. Verset 4, ça nous dit... En elle, ici c'est la parole de Dieu, Jésus, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça nous dit que la parole c'est la vie. Jésus, hein, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'œuvre de Dieu c'est de faire connaître cette vie, la vraie vie. On a perdu la vie en Éden et Jésus est venu nous la redonner. Puis le fait qu'il est la lumière de la vie, c'est qu'il ne fait pas juste être la vie, c'est qu'il la transmet. Il jette la lumière sur les ténèbres de nos cœurs. Et il faut comprendre, j'ai un message trinitaire ce matin, on parle de l'incarnation, mais la mission de sauvetage, de la rédemption, le Dieu trinitaire au complet est impliqué là-dedans, dans cette délivrance, parce que en aucun temps, dans toute l'œuvre de la rédemption, une des personnes de la Trinité a agi indépendamment de l'autre. Il y en a qui peuvent avoir le spotlight, un rôle, comme je l'ai expliqué tantôt, mais c'était tous... Parce que Dieu est en harmonie avec lui-même. Quand il fait quelque chose par le Fils, il est incarné, il est envoyé par le Père, il dépend complètement du Saint-Esprit. Il y a tout le temps cette symbiose, OK? Et donc, quand on comprend, quand on parle ici de l'œuvre de Dieu, ben on voit que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la rédemption de l'humanité. C'est pour ça qu'on peut lire dans Tite, au chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même, ça nous parle de Jésus, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le Fils envoyé a ici, nous a rachetés et tout ça, ça s'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus étant issu du Père par le Saint-Esprit, on sait ça aussi l'incarnation, il est né d'une vierge par le Saint-Esprit. Lui qui est sans péché, il est venu à nous et qu'est-ce qu'on voit? Ben, sa vie, elle culmine, OK, il est venu comme ça, ça c'est le point de départ, mais comment que sa vie termine? Elle culmine avec son sacrifice, sa résurrection des morts, donc son œuvre. Est accompli par la croix puis la résurrection, ce qui est la preuve qui était complètement et parfaitement acceptée, agréable à Dieu le Père. Mission accomplie. Dieu l'a envoyé. Il a fait exactement. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas de lui-même, il dépendait de Dieu constamment. C'est pour ça que Jésus, quand il parle, il dit « Je ne fais rien de moi-même, tout ce que je vais faire au Père, je le fais. » Et tout ça, c'était justement par le Saint-Esprit. Et encore plus que ça, Jésus est remonté au ciel, s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Et maintenant, il œuvre, il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Quand Satan, l'accusateur, nous accuse, Jésus-Christ, le juste, est celui qui plaide pour nous. Et tout ça, ça nous explique pourquoi le Fils, Jésus, qui s'est incarné, qui est venu à nous, il est celui qui est venu achever, compléter l'œuvre trinitaire de la rédemption. C'est le Fils, lorsqu'il est devenu un homme semblable à nous, qui a accompli complètement cette œuvre du Dieu trinitaire. Et là-dessus, j'ai retenu Romains au chapitre 8. En fait, je n'ai pas mis le verset 1, mais je vous le dis. Le verset 1, ça dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, ça c'est un très bon verset sur l'incarnation. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable. Les mots sont importants, c'est pas exactement pareil, parce qu'il n'y avait pas de nature pécheresse, mais une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non par la chair, mais non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Jésus est venu accomplir, c'est lui qui, c'est à cause de son incarnation, à cause qu'il est venu comme ça dans une chair semblable à la nôtre, qu'il a pu accomplir et dire « tout est accompli ». Et effectivement, ce n'était pas juste des belles paroles, c'était la réalité. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que la Bible nous dit? On l'a lu tantôt, mais vous pouvez s'avoir remarqué, mais dans Hébreux, on voit que Jésus est venu accomplir la purification des péchés, puis qu'est-ce que ça dit après? Il s'est assis. Pourquoi Jésus s'est assis? Bien, parce que tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Il est dans une position de repos maintenant, il n'y a plus de choses à compléter. Parce que la rédemption est parfaitement accomplie par la croix, la résurrection, et maintenant, il règne au siècle des siècles. Puis faites-vous-en pas, il n'y a pas fini, là, il y a encore des choses, et pas tous ses ennemis qui sont sur son marchepied, mais en ce qui concerne la rédemption, tout est accompli. C'est pour ça que nous, si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, nous pouvons nous reposer en lui. Écoutez ce que ça dit à ce sujet-là dans Hébreux 4. « Car si Josué, puis ça Josué c'était l'ombre de Jésus, c'était un type de Jésus, car si Josué leur avait donné le repos, puis ça on parle Canaan, là, la terre promise terrestre, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Jésus offre le vrai repos. Le repos de la religion, d'être une bonne personne, puis d'essayer plus fort. Le repos d'avoir tous nos péchés pardonnés, d'être accepté de Dieu. Mais il y a une ironie là-dedans. C'est que, malheureusement, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, ne jouissent pas pleinement de ce repos. Pourquoi? On ne peut pas jouir pleinement du repos de Dieu tant qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas notre besoin de s'approprier de Jésus notre repos. Tant qu'on ne voit pas notre besoin de se reposer, on va être, on dit en anglais, « restless », on va être sans repos, on va être agité, puis en dedans, tout troublé, puis tout ça. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne voit pas notre besoin de se reposer en Jésus, on voit ça, on ne va pas en jouir. Et pourquoi il en était ainsi? Puis ça, je n'ai parlé, je pense que c'est un mercredi ou deux, c'est mercredi passé ou peut-être l'autre d'avant. Pourquoi on a de la misère, les chrétiens, de même? On peut tout dire, ben oui, Jésus est mon repos. Si on pose ici là, un test, là, OK, c'est quoi les bonnes réponses à donner? C'est quoi? Je pense que tout le monde va avoir 100% ici. Donc, c'est pas une question qu'on ne sait pas. Que alors, Jésus est mon repos. Ben pourquoi d'abord je suis tout agité? Vous êtes-vous déjà posé la question? Voulez-vous qu'on y réponde? Ou je peux passer au point suivant? Non, je ne pense pas qu'être rendu là. Hein. Comme on dit ce matin, tant qu'à être allégué, on peut bien hein, s'émerveiller de Dieu puis se réjouir en lui. Tant qu'à s'être donné le trouble de venir. Hein. Pourquoi on a de la misère avec ça? Des vérités, on dit, mais voyons, c'est évident, là, comme chrétien, pourquoi je ne me reposerais pas en lui? Pourquoi? Je laisse un suspense. Mes amis, c'est simple, mais regardez comment c'est puissant. Parce que on ne connaît pas Dieu tel qu'il est. Pour ça, c'est tellement important que Dieu se révèle à nous. Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir une image de Dieu, une conception de Dieu qui n'est pas selon la parole. Par exemple, un Dieu qui a les bras croisés et qui nous regarde de même, qui dit, « T'as encore fait cette niaiserie-là, toi? » Toi, encore. Ça, c'est pas Dieu qui est de même. Ça, c'est Satan qui est de même. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'excuse pas le péché. Dieu ne se réjouit pas du péché. Mais regardez comment il était avec Pierre quand il a péché, lamentablement. Là. Il n'a pas juste dit « Ah, oh, je ne le connais pas ». Non, il a dit ça la première fois, mais après ça, ça s'est rempli. Puis avec imprécation, il a dit « Que Dieu me juge, que Dieu me frappe, que Dieu… » OK, il a invoqué la colère de Dieu sur lui. Il dit « Si je connais cet homme ». Je veux dire, ça, c'est pas péché à peu près. Là. Comme Pierre faisait tout pas à peu près, il l'a fait pas à peu près. OK? Comment Jésus, après, il avait-tu comme ça? « Ah, oh, Pierre, tu vas-tu finir par comprendre? » Est-ce que c'était l'attitude de Jésus? Non, parce que quand Jésus l'a rattrapé du regard, on ne peut pas tout savoir ce qui s'est passé là, mais ça dit que Jésus... Premièrement, je pense que Jésus cherchait le regard de Pierre, tant que Pierre même voulait fuir son regard parce qu'il avait honte de lui-même. Mais Jésus, recherchant son regard, moi, je pense qu'il avait la compassion de dire, « Je te l'avais dit. » Tu vois ton autosuffisance, tu vois que tu as besoin de moi. Puis, savez-vous quoi? Il s'est présenté à lui personnellement. Parce qu'on voit là, dans les différents moments où Jésus est apparu là, après être ressuscité, ça dit à Pierre personnellement. Ça, c'est le Dieu justement, quand on pêche, quand on fuit, il nous poursuit. Puis si on n'a pas cette perception de Dieu-là, mais qu'on le voit qu'il n'est pas content et qu'on ne peut pas s'approcher, parce que là, tu sais... Faut qu'on attende un bout qui finisse de choquer ou je sais pas. On le traite humainement, puis on voit pas comment. Non, Dieu, savez-vous quoi? Pensez-vous que c'est pas le jeu de Satan lorsqu'on pêche de nous garder loin de Dieu? Ah, tu fais bien là, de rester loin de Dieu. Dieu est pas content de toi. Pensez-vous que ça réjouit plus Dieu ou plus Satan? Parce que Dieu, quand on pêche, évidemment qu'il est pas content, puis il est attristé. Mais il dit, viens à moi, puis il nous cherche du regard. Il dit, viens à moi, je suis là. T'as agi indépendamment, veux-tu goûter à la dépendance, veux-tu goûter à ma grâce? T'as agi en insensé, veux-tu que je sois ta sagesse, ton repos et tout ce qui vient avec Jésus, notre vie. Tu sais, quand ça parle dans 2 Corinthiens, puis je le cite assez souvent, ce verset-là, mais je vous le recite encore parce que c'est tellement des beaux versets. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? C'est la façon qu'on est tout le temps habitué de faire les choses, de voir les choses, incluant comment qu'on voit Dieu, comment qu'on voit notre vie chrétienne. Dieu renverse ça. Puis avec les armes avec lesquelles on combat, la parole de Dieu, la prière, l'humilité, la foi. Et c'est comme ça qu'on vainc ces forteresses dans nos imaginations. Ou est-ce qu'on s'imagine les choses, mais qui ne le sont pas réellement comme ça? Le verset 5 va dire, « Nous renversons les raisonnements. » Et tout auteur, ça nous parle de l'orgueil, de cette résistance qu'on peut avoir, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Autrement dit, pas connaître Dieu tel qu'il est, comme il se révèle à nous autres. Tout ça est à renverser. Et c'est ça, des fois on parle... puis nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des fois, on parle comme chrétien d'un réveil, on a besoin d'un réveil. C'est quoi un réveil? Oui, c'est bon, c'est quoi un réveil? Premièrement, des fois, on prend souvent des concepts Ancien Testament. Notre frère avait prêché là-dessus à un moment donné. On prend des concepts de l'Ancien Testament pour les amener pour le Nouveau Testament. Un réveil, c'est quoi? C'est les chrétiens qui sont transformés par un renouvellement d'intelligence, qui voient les choses telles qu'elles sont. C'est ça un réveil, c'est que Dieu nous ouvre les yeux sur tout ce qu'on a. Tout ce qu'on est, sur ce que lui est. Quand les chrétiens sont comme ça, ils sont réveillés à la réalité des choses. Et c'est de ça ici dont on parle quand on parle de la révélation de l'œuvre de Dieu, qui il est vraiment et ce qu'il a fait. Il est assis, on peut se reposer en lui. C'était une longue parenthèse qui n'était pas prévue de même, mais c'est ce que Dieu avait pour nous autres ce matin. Et savez-vous quoi? J'aimerais qu'on considère une autre provision, parce que Dieu, notre plus grand besoin, c'est de le connaître. C'est un besoin universel. Ceux qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais les enfants de Dieu, pourquoi qu'on arrache? Parce qu'on ne connaît pas Dieu tel qu'il est. Pour ça, quand ça parle, là, les grands versets de promesses comme celui du mois, là, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Comment? La connaissance. Pas la connaissance au sujet de Dieu, la connaissance relationnelle. Je connais mon Dieu. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est vrai, qu'il n'est pas menteur, qu'il n'est pas un arnaque. Je connais Dieu. C'est personnel pour moi. C'est vivant. C'est proche. Et donc, ça amène à la troisième provision de la révélation de l'incarnation qui nous révèle le caractère de Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 5 dans Jean, ici, au chapitre 1. « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Pourquoi on rejetterait la lumière? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu, justement. Ici, dans le contexte, ça parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les gens, puis ça nous parle, là, on le voit plus loin, là. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bon, ça, c'est les perdus. Mais même pour nous, Dieu, il nous révèle qui il est, son caractère. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Et quand on considère ces choses à la lumière de l'incarnation, ben lisons ensemble Philippiens 2, que ça nous parle de Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot, c'est esclave. En devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Remarquez ici l'importance dans l'incarnation, l'importance de la doctrine de l'incarnation, c'est qu'on voit comment Dieu s'est humilié, on voit quelque chose du caractère de Dieu là-dedans. Dieu qui est glorieux, qui a toute gloire, il a accepté de s'humilier. Vous pensez à ça? Je veux dire, Dieu n'a pas besoin de faire ça, là. En fait, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais besoin de s'humilier, c'est Dieu. Parce qu'il est glorieux. Puis tu sais, quand des fois on dit ça dans la Bible, que toute gloire soit à Dieu, c'est comme si Dieu, « Hey, là, je veux tout, je me pense bon. » Non, parce que Dieu, de ce qu'il est, il mérite toute la gloire. C'est le seul qui n'a jamais besoin de s'humilier parce que, étant parfait, puis dans ce qu'il est, il mérite la gloire. Mais là, il s'est humilié. Ça nous révèle quelque chose sur le caractère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, dans son souci pour nous autres, dans sa condescendance à accepter comme ça, non seulement t'humilier, là, mais ça va loin, là, jusqu'à la mort humiliante et horrible de la croix. Et du début à la fin de l'histoire de la rédemption et, je dirais plus spécifiquement, de l'incarnation, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'humiliation. Où je pourrais même employer le mot « dégradation ». Jésus, tu sais, il était haut, il a baissé comme ça. Il s'est dégradé lui-même. C'est ça l'idée, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Pensez-y, juste à la naissance. Okay, on pense à la naissance de Jésus à ce temps-ci de l'année. Tout était de condition humble. Là. Un étable, des bergers qui étaient des gens qui étaient méprisés dans la société. Le lieu, les parents aussi, c'était pas des, tu sais, c'était des parents, OK, oui, de la lignée de David, mais je veux dire, c'était pas des gens riches et célèbres, dans une petite ville, Nazareth, qui est aussi, c'est pas la grande ville de Jérusalem et tout ça. Donc, de sa naissance, mais même, une fois Jésus était dans les relations humaines, là, puis même avant son ministère public, mais surtout dans son ministère public, tout était de condition humble encore. C'était qui ses disciples? Des gens sans éducation, des gens qui n'étaient pas de la caste religieuse, donc des gens de condition humble, des gens qui venaient à lui, des gens tout pétés, comme dit notre frère, des gens, tu sais, tout brisés de la vie, puis prostitués, payeurs de collecteurs de taxes et tout ça. Tout était humble. Ça nous montre le caractère de Dieu. Quelque chose qui nous révèle sur Dieu, qui nous révèle quelque chose sur Dieu là-dessus. Et même si on pousse plus loin les choses, comment Jésus a conquéri le monde? Écoutez ce que ça dit dans Hébreux, au chapitre 2. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, qui est Jésus, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans le péché. Dans la servitude, pardon. J'avais perdu ma ligne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Jésus a conquéri en étant conquéri. Je veux dire, c'est pour ça que les gens avaient de la misère à l'accepter. Voyons, c'est un roi, il est supposé être conquéré, puis nous tasser Rome. Puis là, il y avait l'air du gars le plus conquis qu'il n'y a pas, là. Voyons, on s'entend, là, c'est comme ça qu'il a conquis comme étant celui qui est totalement conquis par la puissance étrangère de Rome et par le leadership d'Israël. Il n'est rien, c'est pas le bon, c'est pas lui. C'est comme ça qu'il a conquis. Est-ce qu'on apprend quelque chose sur le caractère de Dieu quand on pense à ça? Mais aussi, on peut se demander, pourquoi? Pourquoi c'est totalement contre-intuitif? Pourquoi la nature si contre-intuitive de l'incarnation puis de l'Évangile? Pourquoi c'est tellement, ça fait tellement pas de bon sens à la pensée humaine, à la norme humaine? Parce que l'incarnation, c'est la révélation du caractère de Dieu en Jésus-Christ qui... Il nous révèle notre situation de par ce qu'il a fait lui-même. Parce que quand on regarde Jésus, on voit juste quelque chose, ça nous dit, c'est prophétisé dans Isaïe, méprisable, les gens n'en faisaient aucun cas. Ça nous révèle quelque chose sur nous, ça. Comment on considère Dieu? Parce que Dieu, dans sa sagesse, ça nous dit dans 1 Corinthiens, il a choisi les choses faibles, il a choisi ce qui est la folie pour le monde. Okay? La croix, est une, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, mais pour ceux qui périssent, c'est de la folie. Donc, Dieu a placé dans son Fils, dans l'Évangile, dans l'œuvre de rédemption, il a placé les choses dans une place si basse que pour l'embrasser, il faut qu'on s'humilie. On ne peut pas embrasser Christ puis l'Évangile dans une attitude hautaine. On doit s'abaisser pour recevoir comme lui s'est abaissé pour le donner. Voyez-vous, il y a quelque chose de Dieu là-dedans qui s'abaisse, ça veut dire, tu veux venir à moi, c'est les termes dans lesquels j'ai mis les choses. Les hautains, les autosuffisants, les religieux, la justice propre, c'est pas comme ça qu'on a accès à Dieu, parce que lui est venu comme ça, puis c'est comme ça qu'on vient aussi à lui. Et pensez-y, c'est l'orgueil, c'est l'antidote à l'orgueil et à l'incrédulité. Qu'un roi si méprisable, qu'un sauveur qui a tellement pas de l'air glorieux, comment je pourrais lui donner toute cette valeur puis mettre toute ma confiance en lui? Faut que je m'abaisse, je peux pas m'appuyer sur la sagesse humaine. Dieu l'a voulu ainsi, ça révèle quelque chose sur qui il est. Et ça nous révèle aussi ce que nous sommes. Et là, il y a une loi spirituelle là-dedans. Hein? Quand ça dit ici que par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort est vaincue par la mort. C'est-à-dire, si je veux avoir la victoire dans ma vie, c'est pas en essayant plus fort, c'est pas en essayant de me ravigorer, c'est en prenant ma place de mort au péché puis vivant pour Dieu. C'est ça la clé de la victoire, c'est ça notre union à Christ. Par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'on rentre dans la puissance de sa vie. Parce que ma vie, Dieu n'a pas besoin. En fait, ma vie, c'est un gros problème pour Dieu. C'est comme, tasse tes pensées, tasse-toi. Laisse-moi. La vie chrétienne, c'est pas Dieu qui veut améliorer notre chair, qui veut nous améliorer, c'est Dieu qui veut complètement transformer et dire « Tasse-toi, moi je veux vivre en toi. » Dieu cherche pas des hommes forts, comme le dit le cantique, Dieu cherche des hommes faibles, Dieu cherche des hommes brisés, des femmes brisées. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que sa puissance agit. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, on l'a vu hier dans notre étude. Je veux dire, la grâce de Dieu est suffisante, mais elle s'accomplit dans la faiblesse, parce que c'est là que la puissance de Christ se manifeste. Et donc, c'est parfait comme ça, Dieu qui s'assure qu'on abandonne toute autosuffisance orgueilleuse et qu'on place tout notre espoir, toute notre confiance dans ce Sauveur qui semble si faible et fragile, mais qui en fait est le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas que Dieu est paradoxal des fois? Parce que Dieu veut qu'on se... Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence devant Dieu. Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Ça m'amène à conclure avec la quatrième provision de la révélation de l'incarnation. Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette révélation de l'incarnation? Elle nous révèle la grâce de Dieu. J'aime tellement le verset 14, c'est le thème pour 2025. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, comment? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et j'aimerais vous mettre en parallèle Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est qui la grâce? C'est Jésus. Jésus est la grâce de Dieu qui a été manifestée, qui nous a été donnée. Elle est venue à nous pleine de grâce et de vérité, cette parole, Jésus, la parole incarnée. Et là-dessus, je conclue, là. Il y a deux éléments que la grâce de Dieu nous donne, deux éléments fondamentaux. La grâce de Dieu nous donne la paix avec Dieu. Quand on n'est pas un enfant de Dieu, on a besoin d'être en paix avec lui parce qu'on est dans la rébellion, on est dans le rejet. Dieu, je veux vivre la vie à ma manière. Mais quand on reçoit la grâce de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 5:1 que par lui, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu comme ça, qui a la paix avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut aussi marcher dans la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça c'est quand dans le quotidien, dans la vie de la foi d'un enfant de Dieu, quand que on arrive avec les problèmes, les choses qu'on vit, on prie, on supplie Dieu, puis là on arrive à dire « Merci Seigneur, on a des actions de grâce pour le fait que, ok Seigneur, je comprends pas, mais j'accepte tes voies. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde, un terme militaire, garde, est au garde à vous pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis aussi, ça nous donne la paix les uns avec les autres. Quel beau passage dans Éphésiens 2. C'est pourquoi autrefois païens dans la chair, ça c'est nous ça, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, les uns avec les autres. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Donc la paix est le fruit de la grâce. Puis aussi l'adoration. Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Il dit, viens le moment, parce qu'il parlait avec la femme samaritaine, « Ah, vous adorez sur cette montagne-là, Jérusalem, nous on adore sur celle-là. » Elle mettait ça géographique. Mais Jésus dit non, vient le moment où est-ce que le Père recherche celui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est plus sur une montagne, c'est en esprit et en vérité. Donc, qu'est-ce que la grâce de Dieu restaure? La paix et la réelle adoration. Et ça, c'est pensez-y, là. C'est ce qui est fondamental avec Dieu, là. D'être en paix avec lui, puis avoir sa paix qui garde nos cœurs, nos pensées, puis l'adorer, là. Pas être un petit religieux qui fait toutes les choses comme on est supposé, non, d'avoir une relation vivante, c'est ça l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas du fake, c'est du réel. Et ça a été prophétisé dans Zacharie 11:7, où est-ce qu'on peut lire? Alors je me mis à prendre les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes. J'appelais l'une grâce et l'autre union, et je fis paître les brebis. Dans le fond, Dieu nous unit à lui, la paix de Dieu, et dans sa grâce comme ça, on peut maintenant être unis à lui et l'adorer en esprit puis en vérité. Donc, savez-vous ce que j'ai à dire pour terminer? Si Dieu s'est fait connaître à nous comme ça, si Dieu est venu à nous plein de grâce et de vérité, si l'incarnation nous révèle tant au sujet de Dieu, pourquoi on ne fait pas simplement aller à ce Dieu pour dire « Dieu, je veux plus de toi ». Pas plus de tes gimmicks, de tes gadgets, puis c'est beau les bénédictions de Dieu, puis on est reconnaissant. Mais Dieu, je veux plus de toi, pour toi. Je veux te découvrir. T'es tellement grand, t'es tellement merveilleux, je veux plus m'émerveiller. C'est un beau mot qui a été amené ce matin dans le temps de prière, en haut. Je veux m'émerveiller de toi. Montre à mon cœur la grandeur de qui tu es. Seigneur, oui, on vient à toi parce que c'est ce qu'on désire. Toi. Et Seigneur, merci que c'est le désir dans tous tes enfants. Ah, bien imparfait qu'on soit, ben pas fier de nous aussi qu'on peut être souvent. Mais on veut regarder au-delà, Seigneur, à ce que tu révèles être, à ce que tu nous dis que tu es dans l'incarnation. Quelle vérité précieuse! On veut les méditer, on veut les chérir. Et Seigneur, merci aussi que tu es près de ceux qui t'invoquent, même qui ne te connaissent pas encore, mais Seigneur, celui qui t'invoque, ça nous dit dans ta parole, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci que tu es celui qui sauve. Ici, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore, qui vont écouter ce message plus tard, Seigneur, fais porter du fruit éternel. Autant chez tes enfants que chez ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur, par ta grâce. Merci pour ce temps ce matin. Merci, Seigneur, pour toi. Et oui, qu'on te désire toi, pour toi, tout simplement, Seigneur. Parce que c'est complet, c'est tout ce dont on a besoin. C'est toi, Seigneur. On a tout pleinement en toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est à votre tour. Si vous...